pouvoir venir te chercher à la gare, hein. Là je peux pas, j'ai grand frais. Ils ont une burrata ultra crémeuse, parfait pour ma salade de tomates. Donc attends-moi un peu, t'inquiète, j'en ai pour 4 heures max.
Chez grand frais, retrouvez chaque jour des petits prix. Et jusqu'à samedi, la burrata des pouilles de 150 grammes est à seulement 2,49€. Régalez-vous, faites vos courses.
Grand frais !
Le meilleur marché.
Soit 16,60€ le kilo, pourcentage de matière grasse précisé sur le lieu de vente, au lait de vache, élaboré en Italie. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Vous écoutez Europe 1, il est 13h.
Europe 1, 13h.
Céline Géraud.
Bonjour à tous et bienvenue à bord. Europe 1 13h, c'est votre rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Dans ce journal, nous vous le révélions dès hier. Un mineur de 16 ans déjà fiché S qui projetait une action kamikaze pendant les Jeux Olympiques a été placé en garde à vue. Nous serons en direct de la commune de Marinier où il a été interpellé dans quelques instants. Emmanuel Macron à la rescousse. Le président vient de terminer son discours il y a quelques minutes à la Sorbonne. Alors pour présenter ses ambitions européennes et relancer la candidature de Valérie Ayé. L'actualité, c'est aussi le préfet de l'Hérault qui retire son agrément à un club de football amateur qui refuse d'intégrer une équipe féminine et qui affiche aussi sur son logo un croissant de lune étoilée, le symbole de l'islam. Et puis les ailes du célèbre cabaret Le Moulin Rouge à Pigalle se sont effondrées dans la nuit sans faire de blessés. Tous les détails à la fin de ce journal. 13h01, Géraldine Hamon, la tendance météo.
Le temps sera assez variable cet après-midi sur l'ensemble du pays avec des pluies fréquentes sur le quart sud-ouest. Les températures varient de 10 à 15 degrés en général et atteignent les 19 degrés sur le pourtour méditerranéen. Météo complète sur Europe 1 à la fin de ce journal.
Et on ouvre cette Europe 1 13h avec cet adolescent de 16 ans placé en garde à vue. Le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête. Ce jeune homme déjà fiché S a reconnu qu'il projetait de commettre une action terroriste suicidaire pendant les Jeux Olympiques. Noémie Loisel, vous êtes en direct dans la commune de Marinier. C'est en Haute-Savoie où l'adolescent a été interpellé.
Oui, c'est plus exactement chez ses parents que cet adolescent de 16 ans de nationalité française a été interpellé. Suivi pour radicalisation islamiste, il projetait de commettre un attentat suicide pendant les Jeux Olympiques dans le quartier d'affaires de la Défense. Les enquêteurs ont repéré l'adolescent sur la messagerie sécurisée Telegram. Dans ses messages, le jeune homme cherchait à se procurer du matériel pour confectionner une ceinture explosive. Il écrit aussi vouloir mourir en martyr au nom de l'organisation État islamique. Un serment d'allégeance à Daesh a d'ailleurs été découvert par les enquêteurs lors de la perquisition à son domicile. Un téléphone a aussi été saisi et sera analysé. L'adolescent a été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte par le parquet national antiterroriste pour association de malfaiteurs terroristes criminels.
Noémie Loisel en direct de Marinier en Haute-Savoie pour Europe 1. Et pendant ce temps-là, dans l'Hérault, le 7 Olympique Football Club vient d'être sanctionné par l'État pour pratique communautaire. D'après la préfecture, ce club amateur a délibérément fait le choix de ne pas ouvrir de section féminine et d'avoir, pendant plusieurs années, arboré un logo explicitement religieux. Dans la commune de 7, c'est le choc et l'incompréhension. Le reportage de Charles Lullier.
Ces footballeurs musulmans ont l'habitude de s'entraîner sur un terrain municipal qu'ils partagent avec d'autres clubs et donc d'autres joueurs abasourdis.
Mélanger la religion avec le sport, c'est pas bon. Et c'est ce qui se passe.
J'apprends des choses quand même qui me choquent un peu. Nous, on n'est pas du tout dans le communautarisme où on ne veut pas de femmes, pas du tout là-dedans.
Il y a eu en effet refus délibéré d'ouvrir une section féminine. Il y a aussi ce mystérieux logo remplacé Manu Militari en juin dernier suite à un contrôle. Et cela interroge Hervé Marquez, élu au sport à la ville de Sète.
C'est un croissant de lune, donc. Nous avons décidé de suivre les motivations du préfet à la lettre. Donc, défaut de neutralité, du fait d'un signe emblématique de la religion musulmane pour le logo du club. Je crois que ces choses sont claires.
La ville va donc priver le club de ses 8000 euros de subventions annuelles en plus de ses terrains municipaux.
Le contrat que nous avions pris avec eux, il y a le contrat d'engagement républicain et la charte de la laïcité. Et aujourd'hui, le contrat de confiance est rompu. La laïcité n'y est plus.
Le club a d'ores et déjà prévu de faire appel et refuse pour l'instant toute sollicitation médiatique. À 7, Charles Lullier, Europe.
13h04 sur Europe 1, alors que les opérations PlaceNet XXL se multiplient, le calvaire quotidien des agents municipaux de Rennes ne cesse pas. Des jardiniers, des responsables de la propreté des espaces publics, tous agressés à plusieurs reprises par des trafiquants de drogue dans les quartiers sud de la ville de Rennes. Des agents soutenus par leurs 7000 collègues de la métropole qui appellent à un débrayage la semaine prochaine. En attendant ce soir, ils vont être reçus par la direction pour tenter de trouver des solutions. Le reportage de Sandrine Prioul.
on est victime de cette dérive mafieuse.
Il y a peu, les agents de propreté, les jardiniers, cohabitaient encore avec les dealers locaux, explique Stéphane Morando pour Sud Solidaire. Mais aujourd'hui, ils ne sont même plus sûrs d'exercer leur mission de service public sans danger.
Les points de deal sont à la prise de Parisiens et de groupes marseillais, ce qui crée toute une tension aussi. Il suffit d'un coup de débroussailleuse près d'un arbuste ou autre où étaient cachés des stupéfiants. Si ceux-là ont été abîmés, ils vont venir filmer les agents et diffuser sur différents réseaux sociaux. Voilà, ça devient craignose. Des munitions ont été retrouvées, des armes, etc.
Pour la CGT, Laurent Quéron demande donc à sa direction de prendre conscience de l'urgence.
Les agents sont là pour travailler au mieux. Ils ont été souvent considérés en première ligne lors de la pandémie, mais là, ils sont en première ligne aussi de cette fracture sociale, parce que bon, on n'en sort pas. Et de cette dérive de trafic, voilà, c'est un autre monde.
Une prime d'attractivité, mais surtout le moyen de travailler en binôme. Il en va là de la sécurité des agents, affirment ces délégués du personnel.
Sandrine Prioul, la correspondante Europe 1 dans le Grand Ouest. Il était de retour à la Sorbonne ce matin, 7 ans après son grand discours sur l'Europe. Emmanuel Macron a réédité l'exercice. Le chef de l'État a livré pendant près de 2 heures un bilan de ce qui a été fait depuis 2017, mais aussi et surtout dressé des perspectives pour les prochaines années. Alexandre Chauveau, vous êtes en direct de la Sorbonne, vous avez suivi ce discours, un discours qui intervient en pleine campagne européenne et qui a aussi vocation, on peut le dire, à dynamiser la campagne de Valérie Ayé.
Oui, alors sur le fond et la forme, pas de doute, c'était avant tout un discours de chef d'État sur l'un des invariables du macronisme, l'Europe. Beaucoup de sujets passés en revue et à chaque fois un maître mot, la souveraineté européenne, souveraineté en matière de défense, d'industrie, d'énergie ou d'alimentation. Les règles du jeu ont changé, affirme Emmanuel Macron, qui appelle l'Europe à sortir de sa naïveté face à l'agressivité militaire ou économique des puissances adverses.
L'attaque contre les démocraties libérales, contre nos valeurs, contre, je le dis dans ce lieu de savoir, ce qui est le substrat même de la civilisation européenne, une certaine relation avec la liberté, la justice, le savoir, se joue maintenant ou pas. Oui, nous sommes au moment de bascule et notre Europe est mortelle, simplement cela dépend de nous.
Un avertissement lancé à nos voisins européens, mais aussi aux Français, bien sûr, appelé à choisir le 9 juin prochain entre différents candidats, dont Valérie Ayé, la tête de liste de la majorité présidentielle, en difficulté dans les sondages. Emmanuel Macron a donc redit ce matin son attachement à l'unité européenne. Seul moyen, selon lui, de faire face aux défis du monde. Nous devons y répondre par la puissance, la prospérité et l'humanisme, dit le chef de l'État, qui vient tout juste d'achever ses près de 2 heures de discours.
Alexandre Chauveau, en direct de la Sorbonne pour Europe 1. Et vous, auditeurs d'Europe 1, qu'avez-vous pensé de ce discours sur l'Europe d'Emmanuel Macron? Eh bien, venez réagir dès 13h20 avec Jean-Claude Dacier et Olivier Dartigolle. On décryptera les messages du président et on prolongera le débat dès ce soir à 19h20. Prisca Thévenot, porte-parole du gouvernement, sera avec nous en direct dans le studio.
Et pour réagir, vous composez dès maintenant le 01 80 20 39 21. Le numéro est non surtaxé. 13h08 sur Europe 1. La suite du journal avec vous, Céline Giraud.
Et nous en avions déjà parlé sur Europe 1. La Russie mène une guerre de l'information contre la France et ce sont les Jeux Olympiques qui sont dans le viseur de la propagande russe, avec des faux reportages en pagaille sur les réseaux sociaux, des manœuvres numériques d'influence qui inquiètent les renseignements. Jean-Baptiste Marty.
Une musique de fond anxiogène. Des identités visuelles de médias français imitées, comme sur un reportage de TF1 repris sans la voix du journaliste et cette fausse information en sous-titre. Les Parisiennes sont invitées à accoucher avant les Jeux Olympiques pour libérer les lits pendant l'événement. Ou cet autre reportage repris de France 24 avec son logo et expliquant que le site de location Airbnb ne remboursera aucune réservation pendant la compétition en cas d'annulation. Là encore un mensonge, une stratégie de désinformation selon David Colomb, avec un objectif final bien identifié.
De fragiliser l'image de notre pays et de ses dirigeants dans le monde. Et de ce point de vue-là, les Jeux Olympiques représentent une occasion unique en diffusant des narratifs remettant en cause la capacité de notre pays à mener à bien ce grand événement.
Des opérations sur les réseaux sociaux qui s'ajoutent à d'autres comme les Étoiles de David dans le 14e arrondissement de Paris en octobre dernier. Et cette crainte pour le renseignement que l'accumulation de ces fausses informations touche les anti-JO en France, des contestataires prêts à perturber le bon déroulé de l'événement.
Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1.
Europe 1, il est 13h09.
13h, 14h, Céline Géraud.
C'est un indicateur toujours très attendu. Il concerne l'évolution du chômage. Le ministère du Travail vient de dévoiler le nombre d'inscrits à France Travail, anciennement Pôle emploi, pour le premier trimestre 2024. Et Margot Faudéré, ça ne s'améliore pas.
Effectivement, sur les trois premiers mois de l'année, le nombre de demandeurs d'emploi est resté quasiment stable. Le nombre d'inscrits en catégorie A, c'est-à-dire ceux sans aucune activité, reste supérieur à 3 millions. Même si, il faut le reconnaître, c'est une petite surprise, car on pouvait s'attendre à une dégradation, rappelle Sylvain Bersinger, économiste au cabinet Asterès.
Dans le contexte économique assez poussif, avec une croissance qui patine, un secteur de l'immobilier qui souffre des taux élevés, on aurait pu craindre une hausse assez forte. On a grosso modo une stabilité. Et en ça, si on veut voir le verre à moitié plein, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Mais cela ne veut pas dire pour autant que le gouvernement a réussi son pari. L'objectif, c'est le plein emploi en 2027 et on en est encore loin. Surtout que certains facteurs pourraient continuer à peser sur le marché de l'emploi dans les prochains mois, comme le ralentissement de l'économie ou les carnets de commandes des entreprises qui peinent à se remplir, sans oublier l'entrée en vigueur en janvier 2025 de la réforme de France Travail. Elle devrait faire basculer au moins 1 million de personnes bénéficiaires et demandeurs du RSA dans les statistiques de France Travail.
Les précisions de Margot Faudéré du service économie d'Europe 1. Dans cette Europe 1 Trésor, une autre étude très éclairante, celle de l'Institut de l'épargne immobilière et foncière. Alors si vous voulez avoir le meilleur rendement, il ne faut pas miser sur l'immobilier ou sur le livret A, il faut miser sur les actions. Et Baptiste Morin, les chiffres montrent que les habitudes d'épargne des Français ne sont pas les plus rentables, loin de là, hein.
Oui, l'IEIF a compilé les données entre 1983 et 2023, donc sur 40 ans, et il en ressort que l'épargne placée sur les entreprises cotées en France, donc placée en actions françaises, a rapporté 12,4% par an. C'est tout simplement le meilleur investissement, comme l'explique Pierre Scheffler. Il est conseiller principal à l'IEIF.
Quand vous achetez des actions, vous achetez la croissance économique de votre pays. Et c'est le seul actif qui permet de le faire. Quand vous achetez des obligations, vous n'achetez pas la croissance économique. Vous achetez juste la capacité de l'État à vous rembourser. Et quand vous achetez de l'immobilier, vous achetez un produit qui est indexé sur l'inflation, certes, mais peu sur la productivité.
Sur ces 40 années, le placement en actions est plus rentable que l'immobilier. À Paris, il rapporte même quasiment deux fois plus que l'assurance vie et près de quatre fois plus que le livret A. Or, si 80% des Français possèdent un livret A et près de 50% ont une assurance vie, moins de 10% possèdent des actions.
Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1. Et sachez que 3 vols sur 4 sont annulés aujourd'hui à l'aéroport de Paris-Orly. 55% à Roissy, 65% à Marseille. Les contrôleurs aériens ont levé leur préavis de grève trop tard pour rétablir le trafic aérien. Les compagnies low-cost qui multiplient les rotations dans l'espace européen sont les plus impactées. 13h12, la Croix-Rouge publie ce matin son report annuel sur la vulnérabilité de la population française face aux événements climatiques extrêmes. Incendies, sécheresses, canicules et inondations se multiplient, mais la gestion de crise pour la France est loin d'être optimale et nous n'avons pas forcément, on peut le dire, les bons réflexes. Louis Salé, notamment celui de prévoir un sac d'urgence en cas de grand danger.
Et oui, un incendie qui se déclare, sa maison qui prend l'eau, il faut pouvoir partir avec un sac tout prêt qui contient des vêtements, des vivres, des médicaments, de l'eau et une lampe torche. C'est l'une des préconisations de ce rapport. Philippe Dacosta, président de la Croix-Rouge.
Quand on incite tous les citoyens à adopter le réflexe du sac d'urgence, qui répond aux 5 besoins vitaux en cas de crise, l'hydratation, l'alimentation, le soin, la protection, le signalement, c'est une manière de sensibiliser la population à des gestes vitaux, à des comportements qui peuvent sauver des vies.
Le rapport insiste aussi sur la formation des citoyens aux premiers secours. 40% seulement des Français connaissent les gestes qui sauvent, contre 80% des Allemands par exemple. Ça fait pourtant partie de cette culture du risque qu'il faut développer. Jean Jouzel est climatologue.
On a toujours ce sentiment que c'est le voisin qui sera touché et pas nous-mêmes, alors que chacun d'entre nous, nous sommes concernés. Il y a des plans de protection des risques, bon, il faut qu'ils soient vraiment respectés. Par exemple, il reste toujours, semble-t-il, assez difficile d'imposer ces plans qui apportent des restrictions sur les permis de construire, par exemple.
Et oui, éviter de bâtir dans les zones inondables ou les zones côtières exposées aux submersions marines, par exemple, font partie de ces règles indispensables à respecter.
Merci Louis Salé, spécialiste environnement à Europe 1.
Et à 13h14 sur Europe 1, Céline, vous revenez sur cet effondrement spectaculaire. Et oui, l'année dernière, les ailes du Moulin Rouge se sont décrochées.
Oui, les ailes du célèbre cabaret parisien du quartier de Pigalle sont tombées. Ils étaient un peu plus de 2h du matin, sans faire aucun blessé. Hein, c'est presque un miracle. Guillaume Dominguez, vous êtes devant le cabaret. Et dans le quartier, forcément, beaucoup d'agitation. Cet accident fait beaucoup réagir.
Et oui, ici, des dizaines de badauds s'arrêtent devant l'emblématique façade du cabaret, désormais défigurée. Un choc pour Jean-Marie et Brigitte. Ce couple d'Alsaciens en visite à Paris ont entendu les ailes du Moulin tomber cette nuit.
Cette nuit, je me suis réveillé, il y avait un bruit sourd, donc j'ai pensé à un échafaudage ou une grue qui s'est effondrée. Et finalement, c'était les ailes du Moulin. Ce matin, en regardant les infos, j'ai vu qu'il y avait les ailes qui sont tombées. On était stupéfaits, quoi.
Avant les jeux, c'est triste. Bon, ils vont le réparer.
Alors ici, aucune trace des ailes. Elles ont été évacuées par camion tôt ce matin. Dans un communiqué, la direction du Moulin Rouge explique que la chute n'est pas un acte malveillant et qu'elle est, selon eux, inexplicable. Le mécanisme est vérifié chaque semaine, précise la direction. Une version qui correspond au témoignage donné par les habitants du quartier. Rita est chef de rang au Rouge Bis, la brasserie qui fait face au Moulin Rouge.
J'ai un ami qui était là cette nuit et qui a vu l'aile tomber. Apparemment, elle serait tombée d'elle-même. Ce matin, ça m'a fait tout drôle. C'est assez touchant que le monument emblématique qu'on connaît depuis des années s'écroule du jour au lendemain. Nous, ça fait des années qu'on est devant. Donc voilà, c'est assez dur, mais il y a des bons côtés quand même, parce que ça nous fait bosser.
Et oui, ici, ils sont nombreux, les passants venus voir l'emblématique cabaret ce matin. Comme quoi, même sans ses ailes, le Moulin Rouge reste toujours aussi attirant.
Guillaume Dominguez en direct devant le Moulin Rouge à Pigalle pour Europe 1. Allez, 13h16, un point sur les marchés, comme chaque jour avec vous, Didier Hamot de boursier.com. La tendance ?
En baisse assez nette, moins 0,9%, quand même 8020 points le CAC 40, alors que les résultats d'entreprise continuent d'animer le marché. Dans le palmarès du jour, on a Verallia, Fnac, Darty ou Sanofi qui s'en sortent bien, en hausse de 4 à 5%. En revanche, c'est plus délicat pour Atos, toujours en difficulté, mais aussi pour Dassault Systèmes et Pernod Ricard, qui reculent de 3 à 6%. Ailleurs en Europe, ça baisse. Moins 0,6% à Francfort, moins 0,3% à Bruxelles. Le CAC 40 perd 0,9%, 8020 points.
Merci beaucoup Didier Hamot de boursier.com et rendez-vous ce soir à 19h. Allez, 13h16, la météo avec vous maintenant. Géraldine Hamon, nuages et pluie sur une grande partie du pays cet après-midi.
Exactement Céline, avec en effet des précipitations qui se multiplient sur tout le quart sud-ouest qui se dirige vers la Bourgogne, la vallée du Rhône et les plaines du Languedoc-Roussillon. Des averses aussi sont à prévoir sur les Alpes du Sud et sur la Corse. Et malgré un ciel voilé, la Provence et la Côte d'Azur conservent, elles, un temps bien ensoleillé dans l'ensemble. Ailleurs, sur le nord et le nord-est, le ciel devient plus changeant cet après-midi, partagé entre éclaircies, passages nuageux et deux petites averses, notamment sur les côtes de Manche, près de la Belgique et sur le Grand Est. Pour les températures, elles restent un petit peu fraîches, 9 degrés à Charleville-Mézières, 10 degrés à Reims, 11 à Dijon, 12 seulement à Paris, 13 à Lyon, 14 à Saint-Brieuc, 15 degrés à Nice, 16 degrés à Brest, 17 à Marseille, jusqu'à 18 degrés à Bastia. Et demain, le programme, pluie, averse et quelques orages dans l'après-midi.
Merci Géraldine. On reste ensemble évidemment jusqu'à 14h avec vous, chers auditeurs d'Europe 1, 01 80 20 39 21. Si vous souhaitez réagir sur les sujets qui font l'actualité, dans quelques instants avec Jean-Claude Dacier et Olivier Dartigol, on va décrypter justement le Parlement européen qui reconnaît la GPA forcée comme une traite, comme la traite des êtres humains. On en parlera, on écoutera Marion Maréchal qui a réagi sur cette polémique. Et puis une fratrie expulsée de son logement social à Taverny après avoir commis des actes graves de délinquance. On sera avec la maire de Taverny, Florence Portelli, qui s'en félicite. À tout de suite sur Europe 1.
Céline Giraud vous informe de 13h à 14h sur Europe 1. À tout de suite.
Europe 1 matin, Dimitri Pavlenko.
Bon réveil avec Europe 1, au programme ce matin.
Bienvenue et bonjour Gérard Larcher.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Et merci de votre présence.
C'est le son qui a marqué l'actualité cette nuit. Au moins 3 explosions comme celle-ci entendues dans le centre de l'Iran.
La question de l'autorité est posée depuis si longtemps qu'il est largement temps de passer des intentions aux actes.
Les faits, c'est quoi ? C'est une jeune fille qui ment, qui dit qu'elle a été agressée, qu'elle a été violentée par un enseignant, donc clairement qui lui met une cible dans le dos.
La violence, la faute à qui ? Aux parents, oui, débordés ou qui laissent faire.
2 387 000 à écouter Europe 1 tous les jours. Merci, encore merci de votre fidélité. À demain matin, 7h-9h sur Europe 1.
Bonjour. Vous connaissez le dicton « On n'a jamais deux fois l'occasion de faire une première bonne impression ». Et quand on est pro, la première impression, c'est aussi son véhicule. Alors venez vite découvrir la nouvelle gamme utilitaire Peugeot. Démarquez-vous avec son design distinctif et sa modularité exceptionnelle. Et avec près de 20 systèmes d'aide à la conduite, vous arriverez chez vos clients dans les meilleures conditions pour faire une deuxième bonne impression. Et jusqu'au 30 avril, Peugeot vous offre 3 mois de loyer pour tout achat d'un nouvel utilitaire en crédit bail. C'est le moment d'en profiter.
Voir conditions en point de vente et sur Peugeot.fr.
Avec But, on peut faire la cuisine encore plus facilement. C'est quoi le secret ?
En ce moment, chez But et sur But.fr, jusqu'à moins 30% sur une sélection de cuisine. Plus la pause offerte et des offres de financement incroyables. Conditions de l'offre en magasin et sur But.fr.
On en parle.
La filière bovine s'engage à vous offrir une viande de qualité et plus durable. On en parle dans un instant avec Marie-Vonne Lagaronne, éleveuse dans les Pyrénées-Atlantiques.
Europe 1 13h.
Avec Céline Giraud de 13h à 14h sur Europe 1, un décryptage de l'actualité avec vous Céline aujourd'hui. Vos deux chroniqueurs politiques, Olivier D'Artigol et Jean-Claude Dacier.
Bonjour messieurs, bienvenue à bord.
Bonjour.
Bonjour mesdames, bonjour Jean-Claude Dacier.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver pour décrypter comme chaque jour l'actualité. Et vous, chers auditeurs d'Europe 1, bien sûr, vous le savez, vous avez la parole jusqu'à 14h. Alors c'est une révision qui fait beaucoup réagir hein, ces dernières heures. Le Parlement européen a donc adopté la révision de la directive sur la lutte contre la traite des êtres humains dans laquelle la gestation pour autrui, la GPA, quand elle est forcée, est reconnue au même titre que l'esclavage ou encore la prostitution forcée. Invité de CNews hier soir, la tête de liste Reconquête, Marion Maréchal, a réaffirmé sa position. Écoutez.
Jamais je n'accepterai qu'on banalise le fait de louer le ventre d'une femme pour une grossesse. Je ne suis pas un produit à louer, mon utérus n'est pas un produit à louer, les enfants ne sont pas des biens de consommation, ce ne sont pas des biens à vendre qui peuvent faire l'objet d'un contrat. Dans les contrats de mères porteuses dans un certain nombre de pays étrangers, vous avez par exemple des garanties de 2 ans. Ça veut dire que on pose une garantie sur l'enfant, s'il décède, y compris pour des raisons domestiques ou un accident de voiture 2 ans après le contrat, on vous le remplace. Je ne m'habitue pas à la banalisation de cette pratique qui, je le dis, le plus franchement possible, est pour moi monstrueuse et honteuse.
Voilà, la position très tranchée hein, de Marion Maréchal hier soir sur CNews. Olivier D'Artigol, l'enfant objet d'un contrat marchand et cette GPA forcée, je le rappelle, condamnée par le Parlement européen.
Il y a deux dimensions. La première dimension, c'est le premier tweet de Marion Maréchal. Où est la maman ?
Oui, alors c'est la polémique avec...
Qui laissait entendre, mais c'est né de ça, laissait entendre que deux papas avec ses jumeaux, mais les petits ne pouvaient pas être heureux. Et donc, j'ai trouvé qu'il y avait une charge là concernant ce moment heureux pour eux, que moi j'ai trouvé.
Déplacé, oui. À la droite.
On pouvait très bien dire bonheur à vous, pour autant je reste défavorable. Il manquait cette dimension-là humaine. Je suis personnellement totalement opposé à la GPA. J'y vois la marchandisation du corps des femmes et d'un enfant. Je crois qu'il y a, je peux choquer en disant ça, mais qu'il y a d'autres moyens, l'adoption, parce que il faut quand même se dire quelque chose.
À l'adoption, il y a beaucoup, beaucoup de verrous.
C'est vrai aussi, bien sûr. Céline, vous avez raison.
Qui font renoncer beaucoup
mais
de familles.
Reste que on peut basculer. Je suis content de vivre dans un pays où la GPA est interdite, parce que dans d'autres pays, la manière dont ça se passe aujourd'hui. Avec les sommes qu'on voit.
Astronomiques, jusqu'à 100 000 euros, effectivement, aux États-Unis.
Oui, avec des contrats, il y a quelque chose là qui nous fait basculer dans une société dont je n'ai pas envie.
Jean-Claude Dacier, votre position par rapport à ce qu'on vient d'entendre, notamment Marion Maréchal.
Je crains de devoir passer pour un vieux schnock de l'ancienne génération, mais je ne peux pas me résoudre à considérer que confier la naissance d'un enfant que l'on souhaite avoir, ça ne fait pas l'ombre d'un doute à mes yeux, un ventre, quelque part, faire un chèque de 30 000, 40 000, 50 000, 100 000 euros, on me dit que ça coûte 150 000 maintenant aux États-Unis, choisir quasiment le look de son enfant, pourquoi pas son niveau d'intelligence, peut-être pas aujourd'hui, mais demain sans doute.
Après, Jean-Claude Dacier, ça ne concerne pas que les couples homosexuels, non, ça peut être aussi des couples qui ont des problèmes de fertilité.
Vous m'avez
voilà,
entendu
bien sûr.
Dire ça.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut faire aussi.
Bon,
ce n'est pas.
Néanmoins,
ça peut être un embryon qui est entre guillemets implanté dans.
Non, mais là-dessus, il n'y a pas de débat, si vous voulez. Oui. Faire autoriser, permettre et que les progrès de la science permettent à des couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants d'en avoir un, il n'y a pas de débat là-dessus. Là, on est en réalité et c'est l'objet d'ailleurs de cette polémique mal troussée à mon avis, c'est la communauté homosexuelle qui souhaite, pour certains de ses membres en effet, obtenir un bébé et se rend aux États-Unis ou ailleurs au Canada, je ne sais pas, pour essayer d'en avoir un, avec un flou juridique que l'on doit à Madame Taubira, puisqu'effectivement la GPA est absolument interdite. Et si j'ai bien compris, renforcée par le vote du Parlement européen à Strasbourg. Donc je pense que là-dessus on est relativement bien protégé. Mais Madame Taubira a succombé aux pressions amicales. J'ai connu la période de certains et elle a pondu la possibilité par circulaire, par je ne sais quoi, de reconnaître, ce qu'on peut admettre d'ailleurs, l'identité des bébés en question, en disant, bon, on va leur donner une identité, les laisser sur le trottoir sans identité me paraîtrait aussi condamnable et répréhensible. Néanmoins, on est dans un flou juridique qui me paraît dommageable.
Alors, le vote, je le rappelle, donc adopté par le Parlement, et donc les nouvelles dispositions entreront en vigueur dans 20 jours, après leur publication au Journal officiel de l'Union européenne. Et ensuite, les États membres disposent de 2 ans pour les mettre en œuvre, ce qui va évidemment demander effectivement des ajustements sur le plan légal. Enfin, c'est une autre problématique pour la France, notamment.
J'ai suivi avec intérêt le débat sur la PMA, tout en disant que je ne souhaitais pas que ça puisse évoluer vers une GPA dans notre pays. Bon, ça pose des questions vertigineuses, bien sûr. Et vous avez eu raison, Céline, de préciser qu'il y avait plusieurs chemins pour l'instant.
Et des sanctions seront par ailleurs prévues pour les entreprises reconnues coupables de trafic. Là aussi, c'est important.
Parce qu'il
y a une exploitation par GPA forcée.
La marchandisation a pris la main sur des pans entiers de la société.
Mais inévitable, Olivier.
Attends, je termine.
Allons.
A pris la main sur des pans entiers de la société, de nos vies.
Ah oui.
Et je pense dans ce mouvement permanent qui progresse, il y a des choses à protéger.
Mmh. Voilà. Ah oui.
J'espère, quand même. Parce qu'il faut parler du sort de ces femmes qui, en période, donc, dans leur vie de femmes, qui peuvent donner naissance, avec les filières qui s'organisent, ne pourrait être que des ventres.
Ouais. Bien sûr.
Il y a aussi cette réalité-là, ce qui est une forme de traite.
Et on considérera...
Alors après, c'est encadré aux États-Unis. Il faut que les femmes, effectivement, fassent le choix, qu'elles soient dans une volonté humaniste. Pardon. Voilà, c'est un don.
Et puis après, il y a une autre dimension, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. On n'a pas encore en retour sur ces enfants.
Bah, ce matin,
sur la manière dont ils vont ressentir ça quand le récit de leur vie, s'il est fait. Mmh. Et vous avez eu sur Europe 1, je pense...
Oui, Olivia Morel, justement, jeune femme, née de la GPA, militante contre cette pratique, qui disait, c'est un petit pas vers une tentative d'abolition de la GPA. À cet âge-là, il est difficile d'aller contre ses parents. Elle a souffert de ne pas savoir, tardivement.
La filiation, la filiation est quelque chose d'important.
Elle me dit, elle disait à Dimitri Pavlenko ce matin, on se sent comme les enfants abandonnés.
Oui, bien sûr.
On est dans le même cas de figure.
C'est devenu dans certains pays, c'est vrai, notamment aux États-Unis, mais pas seulement, un business. Et bientôt, vous pourrez choisir le look de votre bébé, de votre enfant. Vous le voulez blond, vous le voulez brun, vous le voulez avec des grands yeux, vous le voulez avec des yeux bleus. C'est effrayant. C'est un business absolument inacceptable qui n'est... Et je pense que la France devra sortir quand même de l'ambiguïté dans laquelle l'a plongée Madame Taubira, qui, comme d'habitude, a travaillé à la marge.
Elle t'a pas laissé un grand souvenir.
Non, honnêtement, à personne.
Ouais. Allez, on reste ensemble, 13h27, évidemment, jusqu'à 14h avec vous, chers auditeurs d'Europe 1. Dans quelques instants, on va revenir sur cette expulsion. Une famille entière expulsée d'un logement social à Taverny, c'est dans le Val d'Oise. Nous serons avec la maire de cette commune de Taverny, Florence Portelli, qui veut envoyer un message de fermeté. À tout de suite sur Europe 1.
01 80 20 39 21, c'est le numéro que vous pouvez composer pour réagir avec Céline Giraud sur Europe 1.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élu voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal, c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Carrefour.
vous me dites ?
La TVA remboursée sur les téléviseurs ?
Eh oui ! Sur tous les téléviseurs Samsung d'une valeur de 699 € ou plus, le montant de la TVA est remboursé sur votre carte Carrefour, soit 16,66% environ du prix TTC. Et c'est jusqu'au 29 avril dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Garantie légale 2 ans, détails sur carrefour.fr.
On sort ce soir ? On pourrait aller au ciné, ou aller voir une expo, ou un concert. Ça fait des années qu'on n'en a pas fait. Bon, tu m'écoutes là ?
Hein, pardon, tu disais ? Excuse-moi, j'étais plongée dans une enquête sur le business des grands chefs cuisiniers. C'est incroyable !
Capital, jamais l'économie n'a été aussi captivante. Capital, premier magazine économique vendu en France. Disponible chez tous les marchands de journaux. Hé, tu me le prêtes ?
Leclerc, bonjour.
Bonjour, il paraît que vous avez d'excellentes asperges françaises en bottes.
Tout à fait, et c'est un vrai délice de saison.
Ok, mais pourquoi en bottes ? C'est le printemps, moi j'ai sorti les sandales.
Vous pouvez même les déguster en tongs si vous voulez. Du 24 au 27 avril chez Leclerc, la botte de 500 grammes d'asperges blanche-violette origine France est à seulement 3,70 €. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Soit 7,40 € le kilo. Catégorie 1, calibre 16, 22 mm. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
Europe 1, le journal permanent.
À 13h30 sur Europe 1 avec vous, Céline Géraud.
Emmanuel Macron appelle l'Europe à retrouver la maîtrise de ses frontières et à l'assumer. Dans son discours prononcé à la Sorbonne, le chef de l'État plaide pour une Europe puissante qui se fait respecter et assure sa sécurité. Faut-il faire comme le Royaume-Uni, expulser les immigrés illégaux vers un pays tiers ? 67% des Français sont pour. Un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le journal du dimanche. Un adolescent de 16 ans présentant des troubles psychiatriques a été mis en examen et écroué. Il est soupçonné d'avoir nourri un projet de tuerie de masse sans connotation religieuse. Lors d'une perquisition à Antibes, au domicile de ce mineur de nationalité turque, les enquêteurs ont découvert des croix gammées et des signes kabbalistiques sur les murs de sa chambre. Le chômage quasi stable au premier trimestre 2024, avec une légère baisse, moins 0,1%, soit 4 300 inscrits en moins pour un nombre de chômeurs total de 3,028 millions. Un amphithéâtre de Sciences Po au Paris a été évacué la nuit dernière par les forces de l'ordre. Le site était occupé par quelques dizaines d'étudiants qui y tenaient un rassemblement pro-palestinien. Et puis, 3 vols sur 4 sont supprimés au départ ou à l'arrivée de l'aéroport d'Orly, près d'un sur trois à Roissy et à Marseille. Pourtant, les contrôleurs aériens ont levé leur préavis de grève, mais trop tard pour éviter une perturbation du trafic.
Europe 1 13h, la suite sur Europe 1 avec vous, Céline Géraud, et aujourd'hui Olivier d'Artigol et Jean-Claude Dacier, vos deux chroniqueurs politiques.
Et vous, chers auditeurs d'Europe 1, si vous nous rejoignez, évidemment, jusqu'à 14h, vous êtes les bienvenus. 01 80 20 39 21. On décrypte avec vous l'actualité et on va revenir sur cette expulsion. À Taverny, c'est dans le Val d'Oise, une famille entière a été donc expulsée d'un logement social après des actes répétés de délinquance. La préfecture du Val d'Oise a mis plusieurs mois à constituer le dossier des expulsion. Et de son côté, la mairie espère, avec cette procédure exceptionnelle, envoyer un message de fermeté. Bonjour Florence Portelli.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct dans Europe 1 13h. Vous êtes la maire de cette commune de Taverny. Alors, oui, qu'est-ce qui a déjà, pour commencer, motivé votre décision d'expulser cette famille ?
Oui, parce que si je peux me permettre, parce qu'il y a une surcommunication de l'État, mais la préfecture n'a monté aucun dossier. C'est-à-dire qu'en réalité, nous, pendant 2 ans et demi, avec le bailleur social, les services et la police municipale, on établit suffisamment de faits concrets pour pouvoir permettre au bailleur d'aller en justice et de gagner. Et suite à la décision de justice, la préfecture s'est contentée de faire son travail, c'est-à-dire de faire exécuter la décision de justice, qui est l'expulsion.
Bon,
donc,
c'est clair.
À la base, ils n'ont rien fait. Enfin, pardon de dire ça comme ça.
Non, mais ce que vous nous dites, c'est que c'est vous qui avez pris cette initiative.
Bien sûr, avec le bailleur social et sur un travail conjoint qui était long, parce qu'il fallait montrer, prouver au juge qu'on ne prenait pas cette décision par hasard et qu'il y avait vraiment des troubles à la jouissance commune, hein,
concrètement,
et qu'il y avait une violation du règlement que signe un locataire quand il a un logement, qu'il soit social ou pas.
Alors concrètement, dans cette famille, il y avait des faits de délinquance répétés.
De la consommation, du transport de stupéfiants, des dégradations de parties communes, du tapage. Ils ont même dégradé un collège. Enfin, et ils ont d'ailleurs, cette famille avait déjà été convoquée par la mairie. C'est-à-dire que moi, c'est pas d'un seul coup, ça leur tombe dessus. Il y avait déjà eu un conseil des droits et devoirs des familles sur un enfant que je préside, et il y en a eu un deuxième suite aux dégradations du collège où la famille a refusé de se rendre à la convocation du maire.
Oui.
Donc, si vous voulez, on n'est pas dans le cas d'une pauvre famille qui essaye, parce qu'elle a un enfant qui pose des problèmes, de s'en sortir ou de demander de l'aide. Mmh. Là, on a face à des parents qui ne font pas leur travail.
Mmh. Donc pour vous, c'est un message de fermeté que vous souhaitez envoyer à toute la population de Taverny.
Non, mais c'est un message social, parce qu'aujourd'hui, je croule sous les messages de remerciements même de gens du quartier, qui sont gens qui souvent sont dans des conditions sociales difficiles, qui travaillent dur et qui en ont ras-le-bol de voir que leurs enfants peuvent être confrontés à la drogue ou qu'il y a une impunité de ce type. C'est des gens qui aspirent à vivre dignement, en paix, et que la loi soit appliquée dans leur quartier.
Merci beaucoup Florence Portelli, maire LR de Taverny, avec nous en direct dans Europe 1 13h pour réagir à cette expulsion d'une famille entière, donc expulsée d'un logement social, Olivier d'Artigol.
Bien dire que dans la réalité des quartiers prioritaires de la ville, en fait des quartiers populaires, l'écrasante majorité de cette population se comporte bien. Ce sont des travailleurs du petit matin, ce sont des personnes qui viennent le soir pour essayer de se reposer dans des quartiers qui cumulent les inégalités et les difficultés. Et ils peuvent avoir la vie pourrie, mais je dis bien pourrie, par 2-3 familles, très souvent liées au trafic à la drogue, il faut le dire, et qui peuvent faire que le quotidien devient un enfer. Mais dans les bails, avec les bailleurs sociaux, est stipulé que le comportement doit permettre la vie collective et que s'il y a un manquement, un trouble à l'ordre public, les personnes ne peuvent pas bénéficier vitam aeternam de leur logement social. Donc, c'était important que Mme Portelli nous donne ces informations-là. Il ne s'agit pas en effet d'une famille en difficulté. Il y a là véritablement une famille qui empêche les autres habitants de vivre tranquillement et dans une sérénité.
Mais il y a toujours un côté exceptionnel, malgré tout, Jean-Claude Dacier, dans ses expulsions. Je le rappelle, cette décision, elle intervient après un tour de vis, on peut le dire comme ça, décidé par le ministère de l'Intérieur, qui visait à punir toutes les personnes ayant pris part aux violentes émeutes de l'été 2023 et qui vivaient dans des logements sociaux. On est dans la continuité. Et le préfet du Val d'Oise, dont on parlait il y a quelques instants, il précise que 15 expulsions de logements sociaux pour des faits de délinquance ont eu lieu en 2023 dans le département, et 2 autres depuis le 1er avril, et une quarantaine de dossiers sont en cours. Il y a beaucoup de dossiers qui sont en cours dans plusieurs villes, et la complexité, c'est d'arriver à expulser ces familles.
Bah, oui, c'est pas simple, mais c'est relativement nouveau, me semble-t-il, et c'est une fermeté de la part des préfets, de la part des bailleurs, qui me paraît salutaire. On a été, dans ce domaine également, trop longtemps laxiste. On a trop mis, et trop souvent, sur le dos des difficultés de ces familles, en difficulté culturelle, en difficulté sociale, pour excuser les délinquants qui étaient devenus leurs enfants. Là, on peut plus, c'est trop, il y a trop d'exemples de mineurs qui se comportent comme des voyous, ça ne peut pas continuer comme ça, et moi je soutiens Madame Portelli, et je pense qu'encore une fois, il faut faire attention et regarder ce qu'on fait, c'est bien évident. Il ne s'agit pas de décider et de généraliser cette mesure, néanmoins, il me semble que tous les bailleurs confrontés à ce type de difficultés, famille impossible, installés dans le trafic d'une manière ou d'une autre, et se comportant comme des gougnafiers à l'intérieur de ce bloc de logement et rendant la vie absolument inacceptable et impossible à leurs voisins, il faut prendre des mesures qui soient définitives et fermes. On les met dehors. Croyez-moi, ils vont vite changer.
Je précise qu'il ne s'agit pas des familles de mineurs délinquants. Là, c'est l'ensemble de la famille qui est impliquée dans des comportements qui posent problème. C'est important
de faire
ça. C'est au bailleur de le regarder, mais il n'y a pas d'un côté des mineurs délinquants et de l'autre des parents qui sont totalement... Ils sont pour rien dans ce qui leur arrive.
Ça peut exister. Notamment des familles monoparentales, des familles seules.
Il faut quand même arrêter avec l'excuse du culturel et du social. Il faut regarder de près les dossiers. C'est le travail du préfet et des bailleurs. Il faut désormais prendre des mesures, c'est ce qui est en train de se passer.
Le logement a été restitué au bailleur social et peut donc dorénavant être attribué à une autre famille. 13h38, vous restez avec moi évidemment, Jean-Claude Dacier, Olivier d'Artigol et vous, chers auditeurs d'Europe 1. On va revenir sur ce discours d'Emmanuel Macron qui est donc de retour à la Sorbonne pour un nouveau discours sur l'Europe. Il y a 7 ans, souvenez-vous, le chef de l'État s'était déjà plié à ce même exercice au même endroit. Et je vous propose de l'écouter.
J'avais alors fixé un horizon comme rendez-vous, 7 ans. Nous y voilà. Alors nous n'avons pas tout réussi, et il faut être lucide, en particulier lorsque vous souhaitez rendre notre Europe plus démocratique, il faut bien le constater. Les avancées ont été limitées sur ce point, parfois par frilosité de changer les traités, de changer nos règles, notre organisation collective. Et même s'il y a eu quelques innovations en la matière, conventions importantes et des réflexions menées, nous ne sommes pas allés assez loin.
À Emmanuel Macron ce matin, un discours de plus de 2 heures. Alors avant de vous entendre, je vous ai vu bâiller, hein, Olivier Dartigue, pendant le discours. Si, si, on va prendre Diego qui nous appelle. Bonjour Diego.
Oui, bonjour.
Merci de nous appeler. Vous nous appelez d'où ?
De Lyon.
De Lyon, très bien. Alors vous l'avez écouté ce discours, comment l'avez-vous trouvé Emmanuel Macron ?
Je l'ai trouvé fade, je l'ai trouvé à l'image de Macron. Pourquoi faire des propositions maintenant ? Parce qu'il y a des élections européennes. Et pourquoi pas qu'il les applique bien avant, secondo ? Et il ne répond pas aux attentes des Français. Les Français sont, dans le problème d'immigration, il n'en a pas parlé. À plus de 70%, les Français sont contre. Là, il n'en parle pas. Les agriculteurs ont fait des manifestations. Ils sont contre la concurrence déloyale de tous les pays d'Europe, entre les pays d'Europe. Là, il n'en parle pas. Etc., etc. Donc, c'est fade. Il continue à parler d'une Europe des riches. 10% des Européens riches s'enrichissent de plus en plus. Et tous les pays deviennent pauvres. Une image marquante, c'est en Allemagne, la pauvreté augmente de plus en plus. Je trouve que ce qu'il a proposé, c'est fade. Et qui ne s'étonne pas si le Rassemblement national augmente, c'est lui qui nourrit le Rassemblement national.
Merci Diego, effectivement, pour voilà, vous l'avez trouvé fade. Alors je rappelle qu'on est à moins de 50 jours des européennes, et vous avez raison, effectivement, Jordan Bardella reste largement en tête des intentions de vote avec 12 à 15 points d'avance sur Valérie Ayer. Olivier Dartigol
présentera son projet en fin de journée. Je dois avouer, sachant que j'étais à votre micro face à Jean-Claude Dacier, je me prépare, je suis un besogneux, donc j'ai écouté attentivement le président de la République.
On fait pas, vous l'avez trouvé fade aussi comme Diego,
mais j'ai
ou
pris
pas
un grand coup de bûche derrière la tête, alors que je suis passionné par la politique. C'est trop long. Décidément, ce président est incorrigible. C'est verbeux. Oui. C'est stratosphérique dans le sens où il y a une incapacité à parler du réel, tel que les personnes
vivent. Ce que dit Diego, les agriculteurs,
je vois où est la thématique, où est l'imaginaire sur la souveraineté européenne. Je ne vois pas où est la France. Elle est totalement diluée aujourd'hui dans l'expression présidentielle, alors qu'il y a quand même 2 ou 3 petits sujets en lien à l'actualité européenne. La Macronie attendait véritablement que vous allez voir ce que vous allez voir. Ce discours présidentiel va véritablement être un acte quasiment fondateur pour permettre justement la remontada par rapport aux 10, 15 points qui séparent de la liste Bardella. Mais nous verrons l'effet produit. Mais je crains pour eux que l'effet produit soit contre-productif. Mmh. Ouais. Parce qu'il y a dans cet exercice-là quelque chose qui est devenu, pour moi en tout cas, insupportable.
Jean-Claude Dacier, est-ce que vous êtes ennuyé, vous aussi ?
Je dois ennuyer, j'ai fait l'effort.
Vous avez pris un coup de bûche derrière la tête, alors, comme Olivier ?
J'ai eu aussi du mal avec ce discours. J'ai même raté la fin, parce qu'il fallait prendre la voiture pour venir dans les locaux, d'Europe 1.
Vous a sauvé.
On vous a fait une session de rattrapage.
Si on pouvait lui reprocher de dire il va aider Madame Ayer qui a des difficultés,
notre Europe
assez loin,
peut mourir, dit-il.
Mais je pense qu'il est passé à côté de l'objectif. Je ne sais plus. Je n'ose pas trop critiquer, sa personnalité, mais on dirait qu'il est dénué du moindre esprit de synthèse. Je pense qu'il est complètement passé à côté parce que, au contraire, pour les Français, pour la campagne, si tant est qu'il y avait une arrière-pensée pour aider Mme
Ayer. Vous pensez qu'il n'y en a pas une ?
Je crains que dans la longueur du discours, je pense que tous les Français sont passés à côté.
Parce que selon l'entourage du président, c'est totalement décorrélé de la campagne européenne de Valérie
Ayer. C'est possible, après tout, pourquoi pas. De toute façon, il a raté l'objectif, parce que c'était tellement long, c'était tellement détaillé, alors qu'il aurait dû faire l'inverse. Ouais. Il y a un constat à faire qu'il a fait, d'ailleurs, en disant, bon, il y a à boire et à manger, mais l'avenir est, et là, je partage son point de vue, je dis pas qu'il a faux, surtout, je dis qu'il a donné tellement de détails, il est descendu tellement au niveau de ce que doit être un dirigeant européen, que, quelque part, je me suis dit qu'il ambitionnait peut-être. Je me demande si c'est pas ça, au fond. C'était un discours de président de l'Europe.
Ouais.
C'était un discours, il sait tout, ou croit tout savoir sur tout.
Ouais.
L'Europe est en crise, a-t-il dit. C'est vrai, l'Europe est menacée d'exploser et de mourir. Ouais. Il a raison. Simplement, que l'Europe, que les États-Unis et la Chine aient complètement changé les règles du jeu, sans doute. Mais quand on a le bilan économique qui est le sien, on fait preuve d'un peu plus de modestie. Et encore une fois, je pense qu'il y avait 10 grands objectifs à essayer de cerner et de décrire, plutôt que de nous noyer sous des détails qui ont fait que monsieur D'Artigol a pris un coup de bûche sur la nuque et moi, j'ai failli m'endormir.
Jean-Claude Dacier, vous dites, il parle comme un président de l'Europe.
Oui, parce que je pense que quelque part dans sa tête, après Madame von der Leyen, si elle est réélue, je pense que il a un discours, il est tellement européen, il y croit dur comme fer. Je vais oublier les rêves qui sont les siens, à mon avis, sur la défense, sur la puissance économique, etc. Mais je pense que son ambition derrière la présidence européenne, ce sera quelque part, la présidence française, pardon, ce sera de jouer un rôle en Europe.
Mais justement, l'ARCOM, pour le discours d'Emmanuel Macron, a demandé que ce soit décompté de la campagne Renaissance pour les
informations importantes. Mais pour aller dans le prolongement de Jean-Claude, je me pose une question, je vais le faire avec prudence, sur véritablement une faille narcissique concernant ce président.
Possible.
Alors la veille, il a certainement pris un cocktail de confiance en marquant ce pénalty, avec quand même un goal, c'est la deuxième fois que ça arrive, qui est statufié sur sa ligne de but. Je veux participer à la sélection du prochain gardien de but face au président. On a un problème de casting sur le gardien de but.
Il y avait Jacques Vendroux, mais il n'est pas resté très longtemps.
Dit du positif, ce qualité footballistique du président. Moi, je mets les images, ce gardien ne bouge pas depuis, voilà.
Et Jacques dans l'équipe d'Emmanuel Macron, Jacques Vendroux, je le précise.
Mais certainement, le président a pris la veille et la confiance avec ce pénalty réussi. Mais il y a quelque chose d'une faille, pour devenir un peu sérieux, narcissique chez lui, jupitérienne comme au début de son premier quinquennat, qui vise à croire que nous sommes tous suspendus à ce récit présidentiel qui dure une plombe, alors que nous sommes percutés par une série de crises à l'échelle nationale, européenne et mondiale, et que son verbe suffirait à lui seul à régler la situation. Oui. Il est comme dans un appétit, une gourmandise, presque une autosatisfaction, ça se voit d'ailleurs, qui est, j'ai envie de dire, qui ne correspond pas à l'époque que nous vivons.
Il y a un
décalage avec le climat qu'on vit et qu'on ressent et qui est lourd et pesant que cette parole présidentielle au-dessus de nous, très au-dessus de nous.
Allez, 13h46, on est ensemble jusqu'à 14h. Dans quelques instants, on va revenir sur ce site du campus de Sciences Po qui a été évacué la nuit dernière par les forces de l'ordre. Quelques dizaines d'étudiants tenaient un rassemblement pro-palestinien dans un amphithéâtre. Et aux États-Unis, vous l'avez vu aussi, ça chauffe dans les universités américaines, même à Harvard. À tout de suite sur Europe 1.
Bon début d'après-midi avec Céline Giraud de 13h à 14h sur Europe 1.
Bonjour, c'est Pierre de Villeneuve. Je vous donne rendez-vous dès lundi, de 19h à 21h, pour Europe 1 Soir, nouvelle formule. 2 heures d'actualité pour préciser, décrypter et débattre de l'information de la journée, avec des invités et les voix d'Europe 1.
Europe 1 Soir, présenté par Pierre de Villeneuve.
Alors rendez-vous lundi, de 19h à 21h, sur Europe 1.
Bien, j'ai parcouru votre CV, c'est très impressionnant. 12 ans d'expérience dans de grands groupes, comme dans une PME. Vous êtes expert en comptabilité, marketing, sécurité informatique, ressources humaines. Vous parlez anglais, chinois, hindi. Vous pouvez commencer quand ?
Désolé, le mouton à 5 pattes n'existe pas. Mais heureusement, sur APEC.fr, vous trouverez des solutions et de l'aide pour recruter le candidat qui correspond à votre TPE-PME. Rendez-vous sur APEC.fr, c'est gratuit.
APEC, donnez de l'élan à votre avenir.
Leclerc, bonjour.
Bonjour. En général, la machine à café, c'est la bonne excuse pour faire des pauses au boulot. Mais là, avec votre machine Nescafé,
oui.
Eh ben, j'ai aussi une excuse pour faire des pauses quand je télétravaille.
Et ça fait du bon café. Du 23 avril au 4 mai, pendant l'opération Nos Super Pouvoirs d'Achat, la machine Nescafé Dolce Gusto Minimi et ses 60 capsules offertes avec 20€ de réduction est à 39,90€.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Garantie 2 ans, modalité et magasin participant sur www.e.leclerc.
Europe 1 13h.
Europe 1 13h, la suite sur Europe 1 avec vous, Céline Giraud, et aujourd'hui vos deux chroniqueurs politiques, Jean-Claude Dacier et Olivier D'Artigol.
Et on continue à parler évidemment de l'actualité du jour. On va revenir sur ce site du campus de Sciences Po, décidément Paris, évacué la nuit dernière par les forces de l'ordre. Quelques dizaines d'étudiants qui tenaient un rassemblement pro-palestinien dans un amphithéâtre ont donc été évacués. Et en même temps, aux États-Unis, à Los Angeles, 93 personnes interpellées alors qu'elles participaient à une manifestation pro-palestinienne aussi. Alors il y a eu une vague de de manifestation qui a débuté dès la semaine dernière dans l'université de Columbia, mais également à Harvard. Les universités, nouveau terreau pour les activistes, Jean-Claude Dacier ?
Moi, je ne dirais pas ça. Je pense que pour la première fois... Non, mais qu'on fasse de l'activisme sur les,
non, mais là,
sur les campus, ça ne me paraît pas anormal. Qu'on discute politique, même de manière musclée, ça ne me paraît pas anormal. Le fait nouveau n'est pas là.
Ce qui surprend, c'est l'organisation.
Ils s'organisent, oui. Non, le fait nouveau, c'est le désaveu de la politique israélienne que, pour moi, je pense qu'il n'y avait pas de précédent aux États-Unis, notamment, mais pas seulement. Et même en France, on a un vrai problème avec des gens qui prennent fait et cause pour la situation des Palestiniens, et notamment la situation de Gaza. Ça doit interroger, évidemment, M. Netanyahou et la politique avec les candidats d'extrême droite qu'il a fait entrer dans son gouvernement, et qui, à mon avis, mène Israël à de graves difficultés. Moi, je plaide depuis le début, c'est pour ça que je plaide depuis le début pour le retour des modérés dans les deux camps.
Ouais.
Parce que le Hamas, c'est pas davantage acceptable, et ses méthodes sont éminemment condamnables. Mais en même temps, on voit les résultats. Hein. Pour le moment, ça fait des mois et des mois que la guerre dure, et ils réussissent à échapper, à se planquer, etc., etc. Le retour des modérés dans tous les camps, et l'initiative politique internationale qui doit essayer de mettre un terme à cette guerre, qui fait des milliers de morts et qui détruit Gaza pour pas grand-chose, il est indispensable qu'on en sorte vite. Pour le moment, on n'en prend pas le chemin.
Revenons au campus, Olivier d'Artigol, Sciences Po, mais aussi ces universités américaines prestigieuses, avec tous ces manifestants, ces étudiants qui occupent le terrain. Et c'est assez violent quand même.
Il ne faut pas oublier que 60% étaient venus des campus américains. Il y a toujours eu sur les campus...
Harvard.
Oui, j'entends bien. Il y a toujours eu sur des campus, si ce n'est à bataille idéologique, tout au moins un terrain fertile, un terreau fertile à l'engagement.
C'est nouveau,
l'engagement. Mais là, on n'est pas dans l'engagement.
Oui,
là, c'est des messages
qui
sont portés aussi.
Oui, ce que je veux dire, c'est que la cause palestinienne,
il y a de l'antisémitisme qui l'attend.
La cause palestinienne n'est pas une cause indigne si elle est accompagnée de la reconnaissance des deux États, de la sécurité et la paix pour Israël et la Palestine, et si bien sûr elle n'est nourrie d'aucun propos antisémite. Le problème, c'est que cette cause palestinienne, et ce que vivent les Palestiniens quand même excessivement...
200 à jour aujourd'hui.
Dur pour eux. Ils ont vécu sur le joug du Hamas, et après les bombardements, ce qui s'est passé, population civile, donc ils méritent bien sûr un soutien. Mais beaucoup de personnes prennent ce drapeau palestinien aujourd'hui pour porter un autre combat, parfois qui est celui de l'éradication d'Israël, la non-reconnaissance du droit à Israël à avoir un territoire, ou alors être sur un antisémitisme tel qu'il a pu s'exprimer par ailleurs.
Quand donc, on est un étudiant juif aux États-Unis, c'est compliqué d'aller étudier aujourd'hui, y compris les Israéliens s'en émeuvent.
Donc je pense qu'il faut systématiquement savoir à qui on a affaire. Il peut y avoir une personne qui porte un drapeau palestinien et qui porte une cause positive, juste, telle que je viens de l'exprimer. Mais il y a d'autres personnes qui peuvent en effet se saisir de ce drapeau pour avoir un discours, moi, que je conteste et qui n'a pas lieu d'être.
Jean-Claude Dacier, des messages sont portés quand même, ce sont des messages antisémites.
Mais je ne sais pas si c'est partout des messages antisémites. Ce qui est vrai, c'est que ces jeunes gens, encore une fois, c'est un phénomène qui est relativement nouveau aux États-Unis. J'avais toujours considéré, à raison, me semble-t-il, que les États-Unis étaient un soutien, et même au cœur du peuple, un soutien indéfectible de la politique israélienne. Ce que vous voulez pas voir, c'est que la politique israélienne, maintenant, est en question, et qu'elle est condamnée par beaucoup de gens. Que les paroles antisémites qui soient prononcées soient immédiatement condamnées et envoyées devant les tribunaux, ça me paraît une évidence. Il faut impérativement garder à ce qui est en train de se passer au Proche-Orient et qui diffuse à peu près partout sur la, notamment dans les pays occidentaux. Il faut trouver une solution politique à cette situation qui sinon va terminer. Et a déjà commencé à se comporter d'une manière très condamnable.
Ni avec le Hamas, ni avec le gouvernement Netanyahou et ses partenaires.
Je suis d'accord. C'est pour ça que je plaide pour un retour des modérés au pouvoir, si c'est encore possible. Et la situation des deux États, tu as raison, ce sera extraordinairement difficile à bâtir, mais il faut s'y mettre. Et l'opinion internationale devrait permettre de commencer à ébaucher une solution. On n'y est pas.
Jean-Claude Dacier, avant 14h, il y a une question que je voulais vous poser. Est-ce que vous êtes déjà allé à Venise ?
Plusieurs fois, oui.
Bon, et maintenant, pour y aller, vous le savez, si vous aimez les gondoles, il va falloir payer.
C'est très bien.
Submergé, donc la ville a instauré une taxe pour les touristes à la journée. Donc ce sera désormais 5 euros. Hein, c'est le tarif qui est une taxe d'entrée qui entre en vigueur à partir d'aujourd'hui pour avoir le privilège de pénétrer dans la cité.
Cher ami, quand on allait à Venise et qu'on voyait arriver ces immenses bateaux de croisière sur la lagune, c'était une honte et un scandale. Il était temps que les Italiens se rendent compte qu'ils faisaient complètement fausse route. Sinon, Venise...
Est-ce que ça casse un peu...
Ou alors, il faut y aller l'hiver. Je vous conseille Venise l'hiver.
Les gens vont payer. Est-ce qu'il y aura moins de monde pour autant, Olivier d'Artigone?
Je pense que là, ils sont sur un niveau d'alerte.
Oui. Ah oui.
Là, c'est tout simplement l'avenir même de la ville, d'un écosystème qui est...
On met entre le surtourisme, quoi.
Oui, avec un surtourisme, l'image, en effet, de ces immenses paquebots est très symbolique. Mais j'avais l'impression que Jean-Claude avait quelques souvenirs sur ce séjour à Venise. Il y avait comme une tendresse dans la voix. Oui. Donc, si tu veux profiter de la fin de l'émission pour nous raconter tes souvenirs à Venise...
Vous y êtes allé plusieurs fois avec plusieurs femmes différentes
Non, pas du tout, avec ma femme, comme toujours. Mais si vous voulez, on est au summum du génie européen.
Oui.
En l'occurrence, du génie italien. Mais européen, dirons-nous. Et c'est pour ça que, au fond, je vais rejoindre Emmanuel Macron. Il est temps que l'Europe se réveille et ne cesse de faire n'importe quoi.
Bon. Mais moi, j'essaie d'être un peu romantique et vous nous ramenez à quelque chose de.
L'heure, cher ami, n'est plus au romantisme. Il est à l'action politique et des réformes impopulaires.
Mais en parlant d'action, faire payer 5 euros de plus, est-ce vraiment efficace? Les détracteurs de ce tourisme de masse parlent d'une mesure de façade, Olivier Dardenne. Possible,
oui. Mais est-ce que ces 5 euros permettront de mener des actions spécifiques pour la protection du milieu naturel? Je ne sais pas quel est le montage.
Est-ce que
ça peut avoir un effet dissuasif sur le niveau de fréquentation? Je ne crois pas.
Ouais. Et Paris pourrait faire ça, le Mont-Saint-Michel, il y a plein d'autres endroits.
Le tourisme de masse provoque des inconvénients, notamment pour les locaux. Mais en même temps, ils en vivent un peu.
Donc, venez sur le boulevard.
On a envie du tourisme. Est-ce qu'il ne faudrait pas instaurer cette taxe finalement dans des lieux prestigieux? Je parlais du Mont-Saint-Michel, des Dorés.
C'est déjà un peu le cas sur
Paris, la capitale. Pendant
Achetez
les Jeux,
un paquet de bonbons ici ou là, vous allez voir que la taxe y est déjà.
Venez profiter du boulevard des Pyrénées à Pau. Ouais. La plus belle vue sur terre, comme Venise était la plus belle vue sur mer, disait Lamartine. Ouais. Donc venez sur le boulevard des Pyrénées à Pau, c'est gratuit.
Ouais.
Mais pas trop, venez pas trop nombreux.
Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir beaucoup de touristes à Paris cet été
pour
les JO?
Bien sûr, évidemment.
En dépit de tout ce qu'on entend actuellement,
il faut arrêter
les tensions...
Je suis convaincu qu'avec les efforts, on va parvenir sur la SNCF ou les contrôleurs aériens.
Solidarité au cheminement,
la RATP, tout ça, solidarité avec le chantage à succès. Mais oui, il y aura du monde et je suis convaincu que les Jeux vont être un vrai succès et sportif et populaire.
Un billet, un ticket de métro à 2 euros.
Mais il est normal que ceux qui vont venir aux Jeux, qui auront a priori un peu plus de moyens que d'autres, vont devoir quitter ces jours à Paris, ça coûte, c'est normal.
Alors qu'on apprend qu'il y a beaucoup d'annulations quand même, dans certains hôtels, notamment les Américains.
Oui.
Pourquoi
qui
les
renoncent.
Américains? Ils ont peur de quoi? Des attentats?
Voilà, exactement. La menace terroriste,
sacré américain.
Mais il est vrai que quand on parle de cette actualité olympique, on n'en parle qu'avec des problèmes à régler. Donc ça peut aussi donner de notre pays, ne se dégage pas à l'international, une énergie très positive concernant cette échéance à venir.
Bon. Donc il n'y a pas de gondole encore à Paris, mais les gondoles restent à Venise.
Vous verrez que ça sera une réussite, que les
hôtels
seront pleins.
Un peu de romantisme pour vous, Jean-Claude. Un souvenir de vos escapades à Venise en amoureux. Est-ce que ça vous met un peu de sirop?
J'ai par moments des moments comme ça, il faut les...
Mais on n'a pas réussi à le mettre sur la gondole.
Il y a un romantique qui sommeille en vous, je le sens, Jean-Claude.
Je suis allé à Venise et je n'ai jamais pris les gondoles. C'est vrai.
Vous reviendrez, je vous propose de voyager. Merci beaucoup, messieurs, et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et rendez-vous ce soir à 19h, Europe 1 Soir. Prisca Thévenot, porte-parole du gouvernement, sera avec nous en direct dans le studio. À tout de suite.
C'était Céline Géraud sur Europe 1. Et notez que demain matin, David Hallyday, qui vient de sortir le titre 100% et qui sera en tournée dans toute la France à partir de novembre, sera l'invité de Thomas Hill dans Culture Média. Culture Média, c'est votre émission de référence sur les médias du lundi au vendredi de 9h30 à 11h sur Europe 1. Europe 1, votre jeudi après-midi se poursuit comme d'habitude avec Christophe Ondelat de 14h-15h. C'est Ondelat raconte sur Europe 1.
on en parle.
Les acteurs de la filière bovine s'engagent au quotidien pour vous offrir une viande de qualité et plus durable. On en parle avec Marie-Vonne Lagaronne, éleveuse dans les Pyrénées-Atlantiques. Bonjour.
Bonjour.
Alors en quoi l'élevage bovin herbagé est-il plus durable ?
Eh bien, il l'est parce que l'alimentation que l'on donne à nos bovins est composée en moyenne de 84% de produits issus de nos fermes.
D'accord. Et de quels produits s'agit-il exactement ?
Bon, bien sûr de l'herbe, hein, en premier, mais aussi de céréales, de blé, d'orge, de maïs, de tournesol. Ouais. L'avantage, ce sont des productions en grande partie qui sont non consommées par l'homme.
Et qu'en est-il de la fertilisation des sols ? Autrement dit, comment nourrissez-vous vos terres ?
Sur la partie culture, 35% des sols de notre filière sont fertilisés avec des lisiers, des fumiers. Ce sont des matières naturelles.
Très bien.
Et ça nous permet de réduire l'utilisation des engrais de synthèse et de limiter le transport des fertilisants.
Merci beaucoup, Marie-Vonne.
On en parle. Consultez nos sources d'information sur interbev.fr, rubrique Enjeux sociétaux. Rapport Interbev RSO 2021-2022 et étudie dès 2021.
Et si vous aviez l'occasion de rouler en première classe au prix de la seconde ? DS Automobile présente le surclassement en DS7 Crossback d'occasion. Car si ce n'est pas la destination qui compte, mais bien le voyage, pourquoi vous contenter de bien quand vous pourriez avoir mieux ? Jusqu'au 30 avril, vivez une expérience de conduite premium à bord d'un DS7 Crossback E-Tense hybride.